Il faut pas rater le départ. C'est important, n'est-ce pas? On va voir aussi ce matin quelqu'un qui a failli rater le départ. Si ce n'était la grâce de Dieu qui l'a rattrapé au bon moment. On est dans une série donc intitulée « Promesses tenues ». Quand vous faites une promesse ou quand quelqu'un vous fait une promesse, alors soit si c'est vous qui faites la promesse, on s'attend à ce que vous teniez vos promesses, que vous teniez parole. Et si quelqu'un vous fait une promesse, quelle déception, n'est-ce pas? S'il ne tenait pas sa promesse, c'est terrible. Et on va voir ce matin donc des promesses envers Zacharie et Élisabeth, celles qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. La semaine prochaine, on verra un peu les prophéties que Dieu a fait au peuple d'Israël dans les temps anciens et comment il les a accomplies en Jésus. Et puis la semaine encore après, on verra celles qui ne devaient pas avoir d'enfants et comment Dieu aussi lui fait des promesses. Mais avant de partir sur notre passage ce matin dans Luc au chapitre 1, je voudrais vous inviter à imaginer le jour avant le débarquement de 44 sur les côtes normandes. Vous avez sans doute comme moi des images d'archives de débarquement lui-même que vous avez vues peut-être à la télé ou au cinéma ou je ne sais pas quoi. Mais pensez au jour qui a précédé ce jour J. Silence radio. Tout est en place, mais il faut absolument pas qu'aucune information filtre. Parce que l'armée ennemie en face, elle est à milieu de s'imaginer ce qui va arriver. Elle s'est préparée sur un autre front, dans le Pas-de-Calais. Et si l'info venait à filtrer, ça serait terrible. On en entend parler, ce débarquement, depuis des mois et des mois. Des années même. La décision, en fait, a été prise dès 1942, je me suis renseigné. Hein. Mais effectivement, ça n'arrive que deux longues années de guerre après ça. Des souffrances, des combats, des morts. Alors, on en entend parler de ce débarquement, mais où et quand? Est-ce que c'est vraiment possible de gagner la guerre avec ce débarquement? Je vous invite à imaginer les hommes préparés depuis des mois, silencieux maintenant, dans la nuit du 5 au 6 juin 44. Imaginez le silence sur les plages normandes à 6h15, 15 minutes avant la première vague d'assaut. Le silence contenu pour les soldats alliés en train de traverser la Manche, dans les barges, dans les navires. Le silence presque paisible sur la plage pour les soldats allemands qui se doutent de rien. Et l'instant d'après, quelques minutes après ça, environ 1200 bâtiments de guerre qui apparaissent à l'horizon. 5700 navires de transport qui commencent à apparaître à l'horizon. Imaginez le soldat allemand qui a vu ça la première fois. Imaginez les personnes à l'intérieur des terres en Europe, sous un joug terrible, qui attendent dans ce silence. Est-ce que ça va enfin arriver ? C'est pour un peu nous aider à comprendre le peuple d'Israël. À l'époque où les événements qu'on va lire ce matin vont arriver. Dieu est là, mais il ne parle plus. Sa parole écrite est toujours disponible. On trouve des promesses fantastiques d'un débarquement. Il y a une libération qui est en prévision. On en entend parler depuis des années, mais où, quand? Est-ce que c'est vraiment possible? Le retour d'exil? C'était pas mal, mais c'est pas tout à fait ça. Un pardon entier des péchés, une délivrance de l'ennemi de nos âmes, un changement intérieur, une grève de cœur, une purification, tout ça, on le trouve dans les prophètes. Mais pour le moment, c'est silence, radio. Rien qui ne filtre. Et tout ce qu'il y avait à espérer, des promesses de Dieu, ressemble plutôt en fait à une fausse couche, une naissance qui avorte, ou alors qui la conception, ça marche pas, on dirait que ça n'arrive pas. Le temps passe, mais le fruit de cet amour de Dieu en promesse n'est pas visible. Le mariage des promesses est le fruit d'un mariage, de ce mariage. Attendu, c'est un enfant. Ça a été promis aussi, mais il tarde à venir cet enfant. Et si vous avez dû lutter avec l'infertilité ou si vous n'avez pas pu avoir d'enfant, vous savez vous-même combien c'est douloureux, combien c'est une source de tristesse, combien c'est long, cette attente. On va lire ce matin l'histoire de celle qui ne pouvait pas avoir d'enfant, comme un écho à la situation du peuple d'Israël au premier siècle, et comme un écho aussi à notre propre attente, notre propre situation dans l'attente du retour du Seigneur, dans un monde loin d'être parfait, avec nos cœurs qui sont encore en proie au doute. Il y a trois choses que je veux partager avec vous ce matin, elles tiennent en trois expressions, des appels au secours, des doutes, et une réponse plus belle que celle espérée. Je vous invite juste à prier encore courtement avec moi. Père, toi qui entends nos prières, qui entends le cri, l'appel de tes enfants, de nous ici rassemblés ce matin, nous te demandons de ne pas retarder le jour de la manifestation de notre Sauveur. Nous te demandons, en attendant les forces de vivre pour toi, sans toi nous ne pouvons rien faire, mais toi tu peux tout. Te demandons cette grâce, te demandons de bien comprendre tes promesses et de voir le début de leur réalisation dans ce passage ce matin. Amen. On va lire un passage dans Luc, au chapitre 1, à partir du verset 5. Luc, chapitre 1, verset 5. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y eut un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'encens. Alors, l'ange du Seigneur lui apparut, debout, à droite de l'autel de l'encens. Zacharie fut troublé en le voyant. La peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli d'Esprit Saint depuis le ventre de sa mère, et il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. » Il ira devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, afin de ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à l'intelligence des justes et de former pour le Seigneur un peuple préparé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi le saurais-je? Car moi je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. » J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, tu seras muet, tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. À sa sortie, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il se mit à leur faire des signes et demeurait muet. Lorsque ses jours de service furent achevés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme, Élisabeth, fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. Elle disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, au temps où il a décidé de retirer ma honte parmi les humains. » Je propose de suspendre la lecture ici, on va lire un peu plus loin après. Juste pour le moment de réfléchir à l'appel au secours, aux prières de Zacharie, mais vous avez vu, elles sont comme un écho aussi aux prières de tout un peuple. Le récit, ça commence assez banalement. On est au temps du roi Hérode le Grand, qui a régné en Judée, donc à la fin du premier siècle avant Jésus-Christ. Puis, on voit la caméra de Luc qui zoome sur deux personnes, un couple, dans tout ce quotidien banal au premier abord. On découvre Zacharie et Élisabeth, tous les deux descendants d'Aaron, ce sont des Lévites, ils ont un certain âge, et Zacharie est donc un prêtre, il doit régulièrement aller servir au temple à Jérusalem, selon le roulement sur le planning, si vous voulez. Donc c'est à son tour et à ses collègues de se charger pendant quelques mois du service au temple. Un couple, rien à redire. Ils sont justes, ils suivent les commandements et les ordonnances du Seigneur de façon irréprochable. Mais il y a un petit mais, ou pour eux en tout cas c'est un grand mais, un grand point d'interrogation, une grande question. Ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Laissons ce détail-là pour le moment. On va y revenir après. On continue et on regarde Zacharie. Il suit les commandements du Seigneur, les ordonnances. Il vit pour le Seigneur. Il a un service pour le Seigneur. Et là où on voit Luc en train de zoomer, c'est au moment où Zacharie est en train de prier lui-même et en train de conduire le peuple de Dieu à prier. Il est en train, en tant que prêtre, d'accomplir sa tâche, de faciliter la relation entre Dieu et les hommes. Chaque jour, donc, pendant ces mois-là, il est celui qui peut entrer dans le lieu saint du temple, donc la première partie, la première chambre, si vous voulez, dans le temple, pour répandre le parfum composé d'encens et d'autres herbes odorantes, selon un mélange spécifique pour le culte, et il verse ça sur un autel tout en or, et il fait brûler ce mélange. Et Zacharie se tient donc au plus près de l'autel des parfums, qui représente les prières des croyants, les membres du peuple de Dieu. Et comme la fumée s'élève au-dessus de l'autel des parfums, c'est un rappel que nos prières, elles aussi, montent vers Dieu qui écoute. Et ça, tout juif comme Zacharie et tout le peuple qui est autour, ils ont confiance en ça. En tout cas, ils savent ça, parce que la Bible leur a indiqué que c'est de cette manière-là que Dieu fait. Dieu est censé entendre les prières. Dieu n'est pas sourd. Il n'est pas muet non plus. Il répond. Et en fait, on voit Zacharie qui, d'un coup, est troublé parce que Dieu justement lui répond. Il prie intensément avec sa femme, ça fait des années qu'il prie pour un enfant. Il y a tout le peuple qui est derrière et il est le représentant de ce peuple en train de faire monter les prières vers Dieu. Dieu, sauve-nous! Regarde, l'ennemi qui nous envahit, les Romains qui sont là. Quand est-ce que tu vas envoyer ton Messie? Quand est-ce que tu vas envoyer le Sauveur, celui qui doit nous délivrer? Quand est-ce que tu vas accomplir tes promesses? Vois notre peine! Et d'un coup, Dieu répond et Zacharie est surpris. Mais on ne devrait pas être surpris, n'est-ce pas? Zacharie ne devrait pas être surpris. Nous prions un Dieu qui n'est pas sourd et qui n'est pas muet. Ce n'est pas une idole, ce n'est pas un Dieu qui est fabriqué. C'est le Dieu vivant et vrai. Et voyez, ce n'est pas une surprise que juste à ce moment-là, à cet endroit même où les prières montent, devant lui, c'est là que Dieu répond, c'est là que Dieu envoie un messager de sa part pour dire à Zacharie, n'aie pas peur Zacharie, n'aie pas peur, ne doute plus, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur Zacharie, verset 13, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Dieu entend nos prières. Et souvent, on va être surpris parce qu'il répond de façon époustouflante, de façon inattendue, souvent in extremis. Zacharie et Élisabeth sont très avancés en âge. C'est pas le moment d'avoir des bébés, normalement. Ça semblait peine perdue, ça semblait fini, plus d'espoir. Mais Dieu entend nos prières et il répond. Alors, nous aussi, ma première pensée, elle est pour nous ce matin. Encourageons-nous les uns les autres. Quand nous prions, de la même manière que on pouvait voir, visualiser les parfums qui montaient vers Dieu, de la même manière, nos prières montent véritablement vers Dieu. Et Dieu entend. Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas muet. Il répond, il va répondre, ne doute pas de ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui te trouble ce matin, et qu'est-ce qui t'embête, et qu'est-ce que tu trouves long dans l'accomplissement des promesses de Dieu, mais je te rappelle, comme pour Zacharie, n'aie pas peur, parce que Dieu a entendu ta prière et il veut exaucer les prières. Vous voyez, c'est troublant parce que Dieu répond de façon époustouflante et pourtant, Zacharie reste avec un doute. Il y a des fausses pistes qui nous guettent toujours face à nos doutes. Regardons un peu plus cela, c'est à partir du verset 18 et vers la suite jusqu'au 25. L'ange, d'abord envoyé par Dieu pour délivrer un message de sa part, est très clair dans ses paroles. Il annonce à Zacharie que l'enfant qu'il promet sera important. Il sera consacré au Seigneur. Vous avez vu ça un petit peu plus haut, verset 15. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli d'Esprit Saint depuis le ventre de sa mère. Un enfant qui sera consacré, mis à part pour le service de Dieu. C'était les mêmes instructions qui étaient données aux prêtres. C'était les mêmes instructions qui étaient données à ceux qui faisaient le vœu de Naziréa dans l'Ancien Testament. Cet enfant, Jean, il sera rempli d'Esprit Saint. Et l'ange Gabriel précise, il sera rempli d'Esprit Saint, il ira avec la puissance d'Élie, avec un ministère qui est semblable, comparable à celui d'Élie, bien des centaines d'années avant l'événement qui nous occupe ce matin. C'était quoi le ministère d'Élie ? C'était de ramener le peuple de Dieu vers son Seigneur. Dans un temps d'idolâtrie importante, si vous vous rappelez au Mont Carmel, il y a tous les prêtres de Baal et Élie qui arrivent, qui affirment de nouveau, il y a un seul Dieu, c'est Yahweh, c'est lui que vous devez servir. Choisissez maintenant, qui vous voulez servir, les Baals ou les idoles, des dieux incapables de répondre, ou le Dieu qui a fait tomber la foudre sur l'autel alors qu'il était recouvert d'eau, qu'il y avait toutes les conditions pour que ça n'arrive pas, que le sacrifice soit consumé. Choisissez. Ce Jean qui va naître chez Zacharie et Élisabeth aura ce même ministère de ramener le peuple de Dieu vers son Seigneur dans un temps aussi de détresse. Voyez avec moi verset 17, il ira devant Dieu lui-même afin de ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à l'intelligence des justes et de former pour le Seigneur un peuple préparé. Tout ça, c'est des paroles qui résonnent. D'un coup, il y a des warnings qui s'allument dans la tête de Zacharie. Mais j'ai déjà entendu ça. Ces mots-là, pareil, je les ai déjà lus. Et vous aussi, n'est-ce pas? Vous avez lu la prophétie de Malachie. Et quand on a alors la vue d'ensemble du texte biblique, on se rappelle nous aussi. Mais ça, c'est ce que Dieu avait déjà annoncé avant qu'il y ait cette période de silence, 400 ans avant. Ces événements de Luc chapitre 1, Dieu avait envoyé Malachie. Et voici ce qu'il dit, chapitre 3, verset 1. « Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » C'est-à-dire, ce messager va arriver, et puis juste l'instant d'après, c'est Dieu lui-même qui va entrer dans sa création, dans son monde, et pour sauver. Le Seigneur que vous cherchez, c'est celui qu'on désire, celui qui a fait promesse et alliance avec nous. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et puis un peu plus loin, au verset 23 et 24, toujours du chapitre 3, Malachie dit, je vous enverrai le prophète, il dit de la part de Dieu, je vous enverrai, Dieu dit, je vous enverrai le prophète Élie, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. De nouveau, il annonce qu'il y aura un prophète comme Élie qui va ramener le peuple vers Dieu pour lui éviter, pour le préparer et lui éviter la destruction, la colère de Dieu. L'ange Gabriel est en train de citer littéralement les Écritures à Zacharie pour lui dire « Voilà ce qui est écrit, c'est maintenant sur le point de se réaliser. Et je t'annonce, Zacharie, que contre toute attente ou après toute cette attente, bien que ta femme soit stérile, Dieu a choisi d'accomplir sa promesse au travers de toi et d'Élisabeth. » On comprend que ça peut troubler Zacharie qui se met à douter. Alors il dit, mais à quoi le reconnaîtrai-je? Comment savoir si ce que tu dis est vrai? Et voyez, il y a deux arguments de l'ange. D'abord, il dit, Zacharie aurait dû entendre ce message à cause de la dignité de celui qui parle. C'est Gabriel, c'est un envoyé par Dieu. Et c'est pas un nouvel envoyé qu'on n'a jamais vu. Et déjà, dans l'Ancien Testament, il a parlé à Daniel aussi. Gabriel est celui qui se tient devant Dieu, qui parle avec l'autorité de Dieu. Mais ici aussi, on l'a vu, Gabriel ne donne pas non plus un nouveau message qui contredit l'ancien. Au contraire, il rappelle les promesses de Dieu et il annonce qu'elles vont s'accomplir. Il est envoyé pour parler et annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle dont Ésaïe lui aussi a parlé, dont Jérémie, Ézéchiel, eux aussi ont été les porte-paroles. Et Zacharie connaît les promesses. Il a lu dans les Écritures tout ce qui concernait les alliances et les promesses que Dieu a faites. Mais pourtant, il doute. Peut-être que le problème de Zacharie, mais je ne veux pas le charger, parce qu'on a vu, il est juste, il agit de façon irréprochable devant le Seigneur. Mais peut-être le problème de Zacharie, avec toute sa bonne volonté de servir le Seigneur, est proche du nôtre. Son cœur est semblable, sans doute, au nôtre. Pourquoi est-ce qu'on obéit? Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Et il faut qu'on soit attentif de ne pas mélanger. Ah, je vais obéir pour obtenir. Il faut qu'on soit attentif à ça parce que Dieu veut faire grâce et non pas payer un salaire. Peut-être que le problème de Zacharie et peut-être notre problème, c'est qu'on finit par obéir après toute cette attente, mais sans croire. En finissant par ne plus croire véritablement ce que nous sortons, ce que nous professons par nos lèvres. Et si c'est bien le cas que Zacharie nous ressemble, et que nous ressemblons à Zacharie, alors c'est bien avec ce genre de lutte aussi que nous avons à faire, n'est-ce pas? Nous doutons que Dieu va accomplir ses promesses parce que peut-être j'ai pas fait suffisamment. Nous doutons que Dieu puisse entendre nos prières parce que ça fait tellement longtemps qu'on prie, ça fait tellement longtemps qu'on attend. Alors, bon, on se contente de la routine, mais on n'est plus dans l'attente de voir Dieu en train de nous répondre. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous devez lutter comme moi? Un premier piège qui nous guette quand nous prions. Un deuxième front sur lequel on doit lutter face au doute, c'est la honte. Et là, regardez avec moi plutôt du côté de Élisabeth. Élisabeth qui dit au verset 25, « Voilà que ce que le Seigneur a fait pour moi, au temps où il a décidé de retirer ma honte parmi les humains. » Elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. À l'époque des récits qu'on est en train de lire, c'était une honte sociale, familiale, une difficulté sociale. C'était compliqué de devoir vivre dans une telle situation. Qui va prendre soin de moi dans les vieux jours? Et aussi, il y a cette question-là, en plus de cette question pratique, c'est que selon la Bible, et c'est toujours le cas encore aujourd'hui dans un sens, mais comprenez-moi bien, en tout cas, à ce moment-là, clairement, les enfants sont un cadeau de Dieu, un don de Dieu. Vous pouvez lire dans le psaume 127, au verset 3, « L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils, les enfants sont une récompense. » Voilà ce que les Juifs lisaient régulièrement dans les psaumes. Alors, si Dieu ne bénit pas le mariage d'Élisabeth et de Zacharie, la question c'est de se demander, mais qu'est-ce que Dieu désapprouve? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas chez ce couple? Ça c'est la pensée peut-être des gens autour. Et ça mine petit à petit la confiance de Zacharie, d'Élisabeth. Nous voulons aimer le Seigneur, nous voulons être justes, nous voulons être irréprochables. Mais pourquoi Dieu ne répond pas à notre prière? Pourquoi ne nous bénit-il pas avec un enfant? Et ça a dû être particulièrement dur d'entendre les gens commencer à appeler Élisabeth non plus par son prénom, « Ah, voilà Élisabeth !» Mais on l'appelait « Ah, voilà la stérile. Un, voilà celle qui ne peut pas avoir d'enfant. Et toute son identité était maintenant définie autour du fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Quelle honte! Mais regardez, Dieu vient enlever cette honte. Dieu vient effacer cette honte. Voilà ce que le Seigneur, c'est le Seigneur qui a fait ça. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, dit Élisabeth, au temps où il a décidé de retirer ma honte parmi les humains. Elle est enceinte. On comprend qu'elle s'est cachée pendant 5 mois avant que son ventre puisse apparaître. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que le bébé va rester? Est-ce que c'est pas encore une fausse alerte, un faux espoir? Mais non, ça y est, c'est sûr, l'enfant est là. Alors, elle se réjouit. Dieu a enlevé sa honte. Mes frères et mes sœurs, c'est difficile de croire Dieu sur parole, n'est-ce pas? Et le but, d'ailleurs, de Luc dans son évangile, c'est que tous les chrétiens en connaissent avec certitude la véracité des enseignements qu'on a reçus. Voyez ça avec moi au verset 4. Luc écrit à Théophile afin qu'il connaisse la certitude des enseignements qu'il a reçus. Nous savons, et nous avons plus que ceux qui nous ont précédés, nous avons vu dans les Écritures l'accomplissement de la promesse de Dieu dans l'incarnation du Fils en Jésus. Nous avons reçu le témoignage authentique et conforme aux Écritures de sa mort pour nos péchés, de son ensevelissement, de sa résurrection le troisième jour. Et pourtant, il y a toujours des doutes. Il est difficile de croire Dieu sur parole. Parce que la honte aussi parfois nous accapare. Et on se dit, je ne suis pas acceptable aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi il ne répond pas. Mais il ne s'agit pas de qui on est, mais de qui Dieu est. Regardez le nom qu'il faut donner à ce bébé qui naît chez Élisabeth et Zacharie. Jean, je ne sais pas si vous saviez. Jean, ça veut dire Dieu fait grâce. Dieu fait grâce pour notre joie aussi à nous et à celle de René et Daniel. Dieu fait grâce à Élisabeth et Zacharie. Dieu fait grâce à son peuple. Il ne s'agit pas non plus de ce qu'on fait alors, mais de ce que Dieu a fait. C'est l'œuvre de Dieu. Élisabeth et Zacharie ont crié à Dieu, comme le peuple, comme nous. Viens enlever notre honte. Donne-nous un avenir et permets-nous de porter du fruit pour toi. Et après une période difficile, face au doute, face au silence, voilà la réponse qui arrive. Elle arrive comme un plongeon dans l'eau d'une piscine en plein après-midi d'été, alors que le thermomètre frise les 35 degrés. Quel soulagement, qu'est-ce que ça fait du bien, ça rafraîchit, Dieu répond. 9 mois plus tôt, Zacharie ne pouvait pas en croire ses oreilles. Après 400 ans de silence, Dieu parlait à nouveau, et cette fois-ci non pas pour envoyer un nouveau énième prophète, rappeler les promesses de Dieu, mais cette fois-ci pour affirmer que c'était le temps, le moment où Dieu allait accomplir sa promesse. Maintenant, après 9 mois de silence forcé, Zacharie, rempli du Saint-Esprit, se met à chanter et à prophétiser. Et les paroles qui sortent de sa bouche sont encore bonnes pour nous instruire ce matin. Et je vous invite à lire avec moi à partir du verset 57. Luc chapitre 1, verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle mit au monde un fils. Ses voisins et les gens de sa parenté apprirent que le Seigneur avait fait preuve envers elle d'une grande compassion, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent circoncire l'enfant, et ils allaient lui donner le nom de son père, Zacharie. Mais sa mère dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom. » Et il faisait des signes à son père pour savoir comment il voulait l'appeler. Zacharie demanda une tablette et il écrivit. Son nom est Jean. Et tous s'étonnèrent. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il se mit à parler et à bénir Dieu. Tous les habitants des alentours furent saisis de crainte, et dans toute la région montagneuse de la Judée, ont discuté de tous ces événements. Tous ceux qui en entendaient parler se mirent à réfléchir. Ils se demandaient, que sera donc cet enfant ? Car la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et se mit à parler en prophète en disant, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, d'être intervenu en faveur de son peuple, d'avoir assuré sa rédemption et de nous avoir suscité une corne de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il en a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois, un salut qui nous délivre de nos ennemis et de tous ceux qui nous détestent. C'est ainsi qu'il montre sa compassion envers nos pères et qu'il se souvient de son alliance sacrée, selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père. Ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivré des ennemis, de pouvoir sans crainte, lui rendre un culte dans la sainteté et la justice devant lui tout au long de nos jours. » Et toi, mon enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant le Seigneur pour préparer ses chemins, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à la tendre compassion de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant brillera sur nous d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas vers le chemin de la paix. Or, l'enfant grandissait et devenait fort par l'Esprit. Il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Voyez encore combien il y a un écho entre la situation de Zacharie et d'Élisabeth et tout un peuple avec eux. Dieu entend nos prières, nos appels au secours. Dieu va répondre, mais en attendant, on fait face aux doutes à cause parfois de notre honte ou parce que on se sent bien impuissant, incapable. Mais regardez, la réponse de Dieu est toujours plus belle que celle espérée. Zacharie se réjouit de la naissance d'un enfant. D'abord, voyez ça. Est-ce que vous avez été surpris comme moi? Parce que de quel enfant il parle? Il parle d'un enfant dans la maison de David. Verset 69. Il remercie Dieu, béni soit le Seigneur, de nous avoir suscité une corne de salut. Une corne, c'est le symbole de puissance, une puissance de salut, un roi dans la maison de David, son serviteur. Mais Zacharie, de quel enfant tu te réjouis? Le tien ou un autre? Toi, tu es dans la maison de Lévi, pas dans la maison de David. Et voyez quelle transformation, quel changement chez Zacharie. Qu'est-ce qui s'est opéré pendant ces 9 mois de silence, de méditation forcée sur la parole que Dieu a donnée? Rempli du Saint-Esprit maintenant, Zacharie est assuré. Il n'a plus de doute. Le projet de Dieu s'accomplit comme il l'avait annoncé. Donc toutes les promesses de Dieu sont vraies. Si elles sont vraies, on peut déjà en parler au passé, comme si c'était fait. Dans la foi, une promesse de Dieu est aussi solide que l'accomplissement même de cette promesse. C'est comme si c'était déjà fait. Regardez, Zacharie est en train de parler, c'est fait. Dieu nous a suscité. Dieu est intervenu, comme il en a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Il s'est souvenu, ça y est. Il montre maintenant sa compassion envers nos pères, selon le serment qu'il a juré à Abraham. Et voyez comment... toutes les bonnes choses qui avaient été accumulées dans le cœur, dans la pensée de Zacharie, par la lecture de l'Écriture devient jour, devient lumière pour lui. Il se rappelle que Dieu est quelqu'un qui a fait alliance, qu'il a compassion, qu'il n'est pas un homme pour mentir, que tout ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Il se rappelle de l'alliance avec Abraham. Vous vous rappelez, on avait vu ça déjà en Genèse, et ça parcourt tout l'Ancien Testament, ça s'accomplit dans l'Évangile. Une descendance nombreuse, dans un lieu spécial, béni par Dieu, et avec une relation spéciale avec Dieu, une relation de bénédiction. Et voilà ce que Zacharie est en train de dire. Ainsi, verset 74, nous accorde-t-il, après avoir été délivré des ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte. On est dans la présence de Dieu, on peut sans crainte être en présence de Dieu, dans la sainteté et la justice. Cette sainteté, cette justice que Dieu nous donne. Et ça va durer combien de temps? Regardez verset 75, tout au long de nos jours. D'accord, Zacharie est en train d'envisager, de voir la promesse éternelle dans la nouvelle création. On pourra être dans la présence de Dieu, on sera nombreux, tout un peuple en train de bénir et servir le Seigneur. C'est les promesses à Abraham. Et voilà pour lui, plus de doute maintenant. Parce que Dieu, il a compris, Dieu tient toujours ses promesses. Il rappelle l'alliance avec David, l'alliance selon laquelle Dieu a promis qu'il y aurait un roi bienveillant pour nous conduire, pour nous assurer la paix, pour vaincre justement tous nos ennemis. Le péché, la mort qui est l'aiguillon du péché et les puissances spirituelles mauvaises. Toutes ces promesses se réalisent, non pas parce que Dieu envoie un Xème messager, mais parce qu'il vient en personne. C'est Dieu lui-même qui intervient en notre faveur. Et Zacharie comprend que Jean, qui est en train de naître dans sa famille, est le dernier précurseur. Dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, Dieu arrive. Est-ce que vous réalisez la folie, dans un sens humainement parlant, d'une telle nouvelle ? Dieu arrive. Et en effet, on verra dans 2 semaines une autre naissance miraculeuse que vous connaissez chez Marie et Joseph. Le Fils de Dieu s'est incarné. Dieu en personne est venu. Emmanuel, Dieu avec nous. Nous aussi, n'est-ce pas ? Ça nous paraît fou de savoir que dans quelques minutes, dans quelques jours, peut-être dans quelques années, en tout cas, on n'a jamais été aussi proche du jour où Dieu a promis qu'il revenait pour nous prendre avec lui. Et le temps qui nous reste est court, mais on n'a pas besoin de s'inquiéter parce que Dieu a fait alliance avec nous. Et selon sa grande compassion, sa promesse, c'est qu'il va nous prendre avec lui pour être pour toujours en train de le servir, en étant délivré de nos angoisses à cause de nos ennemis, à cause de ceux qui nous veulent du tort. Nous aussi, nous sommes dans une situation comparable à Zacharie, n'est-ce pas ? En attente de la réalisation des dernières promesses qui restent à accomplir. Mais la naissance de Jésus, il y a plus de 2000 ans, même si ça nous paraît long, trop long parfois, c'est un gage certain que Dieu ne tardera pas à accomplir sa volonté pour nous. De la même manière que cette naissance chez Zacharie lui a fait prendre conscience, ok, mais tout ce que Dieu a dit, alors c'est vraiment vrai, donc ça va s'accomplir, il n'y avait plus de doute chez lui. De la même manière, quand nous regardons pendant cette période de Noël à la naissance de Jésus, c'est arrivé, n'est-ce pas ? C'est vrai. C'est la garantie, c'est la certitude pour nous aussi que toutes les autres promesses de Dieu vont s'accomplir. Alors, je voudrais vous donner 3 pistes d'application pour conclure. Dieu entend nos prières. Dieu entend tes appels au secours. Dieu entend ceux qui crient à lui. Il n'est pas sourd. Il n'est pas muet. Il répond. C'est le Dieu qui exauce les prières. C'est le seul Dieu qui fait ça, en fait. Il le fait non parce qu'il cède à la pression du nombre des prières. Il ne fait pas parce qu'il finit par céder dans une sorte de marchandage ou de chantage, ou parce qu'il est fatigué d'entendre sans cesse les mêmes appels. Non, il répond parce qu'il est un Dieu qui a compassion, un Dieu qui aime, un Dieu qui fait grâce. Jean, Dieu fait grâce. Au final, c'est son caractère à lui qui compte. Nous ne savons pas bien prier. La Bible, elle le dit, nous ne savons pas bien prier parce que nous demandons pour satisfaire nos désirs. C'est Jacques qui nous rappelle ça, qui nous met ce miroir là devant nous. Nous ne savons pas comment prier. C'est Paul qui dit ça aux Romains. On sait qu'il y a des bonnes choses, on désire ces choses-là. On ne sait pas trop comment les demander au Seigneur. Jésus disait à ses disciples, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Faites-le, vous verrez. Nous ne savons pas très bien prier, mais prions malgré tout. Parce que Dieu est un Dieu qui écoute les cris, les appels qui montent à lui. Et quand il veut répondre, ça ne dépend pas de nous, mais c'est lui qui veut faire grâce. C'est parce qu'il est qui il est, qu'il fait ce qu'il fait. Vois comment il a répondu à Zacharie. Vois comment Dieu a tenu ses promesses pour son peuple dont nous faisons partie il y a bien longtemps. Voilà. Vois comment Dieu t'a déjà répondu dans le passé, dans ta propre vie. Et prends courage pour ce qui est à venir. Alors, il y aura du doute qui va venir, parce que t'es comme moi. Mais regarde, la parole de Dieu est certaine, elle est pleine de vérité. Dieu désire que nous soyons dans la certitude en ce qui concerne ce qu'il a dit. Nous pouvons apprendre à prier selon la volonté de Dieu, en nourrissant notre pensée, notre cœur, avec la Bible, avec les paroles de Dieu. Et ainsi nous serons d'autant plus prompts à voir l'accomplissement de ce qui est promis dans la parole de Dieu. Si nous regardons à nos forces, il y a de sérieuses raisons de douter. Si nous regardons à notre dignité, il y a de sérieuses raisons de douter. Mais Dieu répond pour effacer notre honte et pour nous libérer du marchandage avec lui. Notre dette est payée, notre culpabilité et notre honte ont été effacées à la croix par Jésus-Christ, le Fils de la promesse. Et l'avenir est assuré. Tout ce que Dieu a dit, il le fera parce que toutes ses promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'était pas venu, si on n'est pas en train de fêter Noël aujourd'hui, de se souvenir de ce que Dieu a fait, on est des gens misérables. On n'a aucun terrain sur lequel se tenir. Mais ce n'est pas le cas. Jésus est venu, le Fils s'est incarné et tout. Alors, les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ pour nous. Nous n'en sommes plus à connaître des choses sur Dieu, parce que Dieu s'est révélé totalement en Jésus. Et non seulement nous le connaissons comme jamais auparavant, mais lui affirme qu'il nous connaît aussi. Et nous sommes dans cette relation nouvelle avec lui. Dieu a effacé ce qui faisait notre honte aux yeux de tous en faisant grâce, en nous accordant un enfant. Non seulement nous sommes acceptables maintenant devant tous, mais surtout devant Dieu lui-même. Dieu entend nos prières, nous appelle au secours. Face au doute, la parole de Dieu est certaine. Nourrissons nos prières avec cette parole. Regardons à la grâce qui nous est disponible en Dieu. Et constatons combien la réponse de Dieu est souvent plus belle que celle qu'on espérait. Ça dépasse nos rêves les plus fous. Dès maintenant, et je sais, moi aussi, c'est difficile à croire, comment Dieu agit, souvent de façon mystérieuse. Pourquoi toujours à l'inextrémis? J'aimerais bien, un jour, où je lui ai déjà posé cette question, sans doute vous aussi, pourquoi attendre si longtemps, Seigneur, pour finalement donner une telle bénédiction au-delà de ce que je pensais. Mais il agit de sorte à nous préparer pour l'éternité avec lui. Il agit de sorte à nous préparer un peuple prêt pour être dans la présence de Dieu lui-même. Il forme de plus en plus l'image de Christ en nous. Et bien qu'on ne perçoive pas toujours cette œuvre de Dieu, elle est plus belle que tout ce qu'on puisse jamais espérer. Imaginez-vous le jour où Christ revient, nous serons transformés à son image. Nous ressemblerons au Fils parfait de Dieu. Nous entendons déjà maintenant, mais nous entendrons encore plus clairement ce jour-là. Voici mon Fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai pris plaisir. Entre dans ta maison. Réjouis-toi. Quoi qu'il arrive, je voudrais vous encourager, vous exhorter. La réponse de Dieu sera plus belle que celle que vous espérez même. Voyez comment Zacharie a repris courage dans toutes les promesses de Dieu. Toi aussi, ce matin, reprends courage. Je voudrais avoir un mot pour ceux qui n'ont pas mis leur foi en Christ et qui entendent ça, comme le peuple a entendu et constaté ce qui s'était passé chez Zacharie et Élisabeth. En entendant parler de toutes ces choses ce matin, fais comme les gens de l'époque de Zacharie. Réfléchis. Écoute et comprends l'hymne de Zacharie qui annonce le salut en Jésus-Christ. Peut-être pendant le temps de Sainte-Cène qui va suivre, si tu laisses passer les plateaux, mais prends le temps de réfléchir à cela et place-toi devant Dieu qui écoute les prières et qui répond. et louons Dieu encore, mes frères et mes sœurs. Chassons tout doute et remercions Dieu en qui nous avons mis notre confiance. Dieu nous a aimés en Jésus-Christ, il a fait grâce et il mènera son amour jusqu'au bout. Cette parole est certaine. Amen.